Chapitre 8. Les jeux de mots de Monsieur de Richelieu. Retour. Monsieur le duc de Richelieu, comme nous l'avons vu, s'était porté sur Lucienne avec cette rapidité de décision et cette sûreté d'intelligence qui caractérisait l'ambassadeur à Vienne et le vainqueur de Mahon. Il arriva, l'air joyeux et dégagé, monta comme un jeune homme les marches du perron, tira les oreilles de Zamore ainsi qu'au beau jour de leur intelligence et força pour ainsi dire la porte de ce fameux boudoir de satin bleu où la pauvre Lorenza avait vu Madame du Barry préparant son voyage de la rue Saint-Claude. La comtesse, couchée sur son sofa, donnait à Monsieur d'Aiguillon ses ordres du matin. Tous deux se retournèrent au bruit et demeurèrent stupéfaits en apercevant le maréchal. « Ah, monsieur le duc !» s'écria la comtesse. « Ah, mon oncle !» fit monsieur d'Aiguillon. « Eh oui, madame, oui, mon neveu. Comment, c'est vous ?»« Et c'est moi, moi-même, en personne. »« Mieux vaut tard que jamais !» répliqua la comtesse. « Madame, dit le maréchal, quand on vieillit, on devient capricieux. » Ce qui veut dire que vous êtes repris pour Lucienne? D'un grand amour qui ne m'avait quitté que par caprice, c'est tout à fait cela, et vous achevez admirablement ma pensée. De sorte que vous revenez. De sorte que je reviens, c'est cela, dit Richelieu, en s'installant dans le premier fauteuil qu'il avait distingué du premier regard. Oh, dit la comtesse, il y a peut-être bien encore quelque autre chose que vous ne dites pas. Caprice, ce n'est guère pour un homme comme vous. Comtesse, vous auriez tort de m'accabler. Je vaux mieux que ma réputation, et si je reviens, voyez-vous, c'est, interrogea la comtesse, de tout cœur. Monsieur d'Aiguillon et la comtesse éclatèrent de rire. « Que nous sommes heureux d'avoir un peu d'esprit, dit la comtesse, pour comprendre tout l'esprit que vous avez. « Comment ? Oui, je vous jure que des imbéciles ne comprendraient pas, resteraient tout ébahis, et chercheraient tout autre part la cause de ce retour. En vérité, foi de du Barry, il n'y a que vous, cher duc, pour faire des entrées et des sorties. Molé lui-même est un acteur de bois auprès de vous. Alors, vous ne croyez pas que c'est le cœur qui me ramène ? S'écria Richelieu. Comtesse, comtesse, prenez garde, vous me donnerez de vous une mauvaise idée. Oh, ne riez pas, neveu, ou je vous appelle Pierre et je ne bâtis rien sur vous. Pas même un petit ministère ? Demanda la comtesse, et pour la seconde fois, la comtesse éclata de rire avec une franchise qu'elle ne cherchait point à déguiser. « Bon, frappez, frappez !» dit Richelieu en faisant le gros dos. « Je ne vous le rendrai pas, hélas, je suis trop vieux, je n'ai plus de défense. Abusez, comtesse, abusez, c'est maintenant un plaisir sans danger. « Prenez garde au contraire, comtesse, dit d'Aiguillon. Si mon oncle vous parle encore une fois de sa faiblesse, nous sommes perdus. Non, monsieur le duc, nous ne vous battrons pas, car tout faible que vous êtes, ou que vous prétendez être, vous nous rendriez les coups avec usure. Non, voici toute la vérité, on vous voit revenir avec joie. « Oui, dit la folle comtesse, et en honneur de ce retour, on tire les boîtes, les fusées, et vous le savez, duc. » « Je ne sais rien, madame, dit le maréchal avec une naïveté d'enfant. Eh bien, dans les feux d'artifice, il y a toujours quelques perruques roussies par les étincelles, quelques chapeaux crevés par les baguettes. » Le duc porta la main à sa perruque et regarda son chapeau. « c'est cela, dit la comtesse, mais vous nous revenez, c'est tant mieux. Et quant à moi, je suis, comme vous le disiez, monsieur d'Aiguillon, d'une gaieté folle. Savez-vous pourquoi ?» Comtesse, comtesse, vous allez encore me dire quelque méchanceté. Oui, mais ce sera la dernière. Bien dites. Je suis gai, maréchal, parce que votre retour m'annonce le beau temps. Richelieu s'inclina. Oui, continua la comtesse, vous êtes comme les oiseaux poétiques qui prédisent le calme. Comment appelle-t-on ces oiseaux-là, monsieur d'Aiguillon, vous qui faites des vers? Des alcyons, madame. Justement. Ah, maréchal, vous ne vous fâcherez pas, j'espère. Je vous compare à un oiseau qui a un bien joli nom. Je me fâcherai d'autant moins, madame, fit Richelieu, avec sa petite grimace qui annonçait la satisfaction, et la satisfaction de Richelieu présageait toujours quelque bonne noirceur. Je ne me fâcherai d'autant moins que la comparaison est exacte. Voyez-vous, oui, j'apporte de bonnes, d'excellentes nouvelles. Ah, fit la comtesse, lesquelles? Demanda l'aiguillon. Que diable, mon cher duc, vous êtes bien pressé, dit la comtesse. Laissez donc le temps au maréchal de les faire. Oh non, le diable m'emporte, je puis vous les dire tout de suite, elles sont toutes faites, et même elles sont déjà d'ancienne date. Maréchal, si vous nous apportez des vieilleries. Ah, dame, fit le maréchal, c'est à prendre ou à laisser, comtesse. Eh bien, soit, prenons. Il paraît, comtesse, que le roi a donné dans le piège.
Dans le piège?
Oui, complètement.
Dans quel piège?
Mais dans celui que vous lui avez tendu.
Ah, fit la comtesse, j'avais tendu un piège au roi?
Parbleu, vous le savez bien.
Ah, non, sur ma parole, je ne le sais pas.
Ah, comtesse, ce n'est pas aimable de me mystifier ainsi.
Vrai, maréchal, je n'y suis pas. Expliquez-vous donc, je vous en supplie.
Oui, mon oncle, expliquez-vous, dit d'Aiguillon, qui devinait quelque méchant dessein dans le sourire ambigu du maréchal.
Madame attend et tout inquiète.
Le vieux duc se retourna vers son neveu.
Pardieu, dit-il, il serait drôle que madame la comtesse ne vous eût pas mis dans sa confidence, mon cher d'Aiguillon.
Ah, dans ce cas, ce serait bien autrement profond encore que je ne croyais.
Moi, mon oncle, lui,
et sans doute toi, sans doute lui, voyons, comtesse, de la franchise, l'avez-vous mis de moitié dans vos petites conspirations contre sa majesté, ce pauvre duc qui a joué un si grand rôle?
Madame du Barry rougit. Il était si matin qu'elle n'avait encore ni rouge ni mouche, rougir était donc possible, mais rougir était surtout dangereux.
« Vous me regardez tous deux avec vos grands beaux yeux étonnés, » dit Richelieu. « Il faut donc que je vous instruise de vos propres affaires. »«
Instruisez, instruisez, » dirent à la fois le duc et la comtesse.
« Eh bien, le roi aura pénétré tout grâce à sa merveilleuse sagacité. Il aura pris peur. »«
Mais qu'aura-t-il pénétré ? Voyons, » demanda la comtesse.
« Car en vérité, maréchal, vous me faites mourir d'impatience. »
Mais votre semblant d'intelligence avec mon beau neveu que voici.
D'Aiguillon pâlit et sembla dire par son regard à la comtesse, voyez-vous, j'étais sûr d'une méchanceté.
Les femmes sont braves en pareil cas, beaucoup plus braves que les hommes.
La comtesse en vint tout de suite au combat.
Duc, dit-elle, je crains les énigmes lorsque vous remplissez le rôle de sphinx.
Car alors, un peu plus tôt, un peu plus tard, il me semble que je vais immanquablement être dévoré.
Tirez-moi donc d'inquiétude, et si c'est une plaisanterie, eh bien, permettez-moi de la trouver mauvaise.
Mauvaise, comtesse, mais c'est qu'au contraire, elle est excellente, s'écria Richelieu.
Pas la mienne, la vôtre, bien entendu.
Je n'y suis aucunement, maréchal, fit madame du Barry en pinçant ses lèvres avec une impatience que son petit pied mutin décelait plus visiblement encore.
« Allons, allons, pas d'amour-propre, comtesse, » continua Richelieu.
« C'est bien, vous avez redouté que le roi ne s'attachât à mademoiselle de Tavernet.
Oh, ne contestez pas, c'est démontré pour moi jusqu'à l'évidence. »
« Oh, c'est vrai, je ne m'en cache point.
Eh bien, ayant redouté cela, vous avez voulu de votre côté, autant que possible, piquer au jeu sa majesté. »
« Je n'en disconviens pas. Après, nous arrivons, comtesse, nous arrivons. Mais pour piquer sa majesté, dont l'épiderme est un peu coriace, il fallait quelque aiguillon bien fin.
Ah, voilà, ma foi, un méchant jeu de mots qui m'est échappé, comprenez-vous ?
Et le maréchal se mit à rire, ou à feindre de rire aux éclats, pour observer mieux dans les convulsions de cette hilarité la physionomie tout anxieuse de ces deux victimes.
« Quel jeu de mots voyez-vous donc là, mon oncle ?» demanda d'Aiguillon, remis le premier en jouant la naïveté.
« Tu ne l'as pas compris ?» dit le maréchal.
« Tant mieux, il était exécrable.
Eh bien, je voulais dire que madame la comtesse avait voulu donner de la jalousie au roi, et qu'elle a choisi pour cela un seigneur de bonne mine, d'esprit, une merveille de la nature, enfin.
« Qui dit cela ? » s'écria la comtesse, furieuse, comme tous ceux qui sont puissants et qui ont tort.
« Qui dit cela ? Mais tout le monde, madame.
Tout le monde, ce n'est personne, vous le savez bien, duc. »« Au contraire, madame, tout le monde, c'est 100 000 âmes pour Versailles seulement, c'est 600 000 pour Paris, c'est 25 millions pour la France, et remarquez bien que je ne compte pas La Haye, Hambourg, Rotterdam, Londres, Berlin, où il se fait autant de gazettes qu'il se fait de propos à Paris. Et l'on dit, à Versailles, à Paris, en France, à La Haye, à Hambourg, à Rotterdam, à Londres et à Berlin, eh bien, on dit que vous êtes la plus spirituelle, la plus charmante femme de l'Europe. On dit que grâce à cet ingénieux stratagème de paraître avoir pris un amant, et sur quoi fonde-t-on, je vous prie, cette stupide accusation? Accusation, que dites-vous, comtesse? Admiration. Oh, se confond. Il n'en est rien, mais on admire le stratagème. Sur quoi on fonde cette admiration, cet enthousiasme? On le fonde sur votre conduite étincelante d'esprit, sur votre tactique savante. On le fonde sur ce que vous avez faim, avec un art miraculeux, de rester seul la nuit. Vous savez, la nuit où j'étais chez vous, où le roi était chez vous, et où monsieur d'Aiguillon était chez vous. La nuit où je suis sorti le premier, où le roi est sorti le second, et monsieur d'Aiguillon le troisième. Eh bien, achevez! Sur ce que vous avez faim de rester seul avec d'Aiguillon, comme s'il était votre amant, de le faire sortir à petit bruit le matin de Lucienne, toujours comme s'il était votre amant, de sorte que deux ou trois imbéciles, deux ou trois gobe-mouches, comme moi par exemple, le vissent pour l'aller crier sur les toits, de sorte que le roi l'aura su, aura pris peur et vite, vite, pour ne pas vous perdre, aura quitté la petite tavernée. Madame du Barry et d'Aiguillon ne savaient plus quelle contenance tenir. Richelieu ne les gênait cependant ni par ses regards ni par ses gestes. Sa tabatière et son jabot paraissaient au contraire absorber toute son attention. « Car enfin, continua le maréchal, tout en chiquenaudant son jabot, il paraît certain que le roi a quitté cette petite... » « Duc, reprit madame du Barry, je vous déclare que je ne comprends pas un mot à toutes vos imaginations, et je suis certaine d'une chose, c'est que le roi, si on lui en parlait, n'y comprendrait pas davantage. »« Vraiment, fit le duc, oui, vraiment, et vous m'attribuez, et le monde m'attribue, beaucoup plus d'imagination que je n'en ai, mais je n'ai jamais voulu piquer la jalousie de sa majesté par les moyens que vous dites, comtesse. » « Je vous jure, comtesse, la parfaite diplomatie, et il n'y a pas de meilleur diplomate que les femmes, la parfaite diplomatie n'avoue jamais qu'elle a rusé en vain, car il a un axiome en politique, je le sais, moi qui fus ambassadeur, un axiome qui dit « Ne donnez à personne le moyen qui vous a réussi une fois, car il peut vous réussir deux fois ». Mais, duc, le moyen a réussi, voilà tout, et le roi est au plus mal avec tous les tavernés. Mais en vérité, duc, s'écria madame du Barry, vous avez une façon de supposer les choses qui n'appartient qu'à vous. Ah, vous ne croyez pas le roi brouillé avec les tavernés, fit Richelieu en éludant la querelle. Ce n'est pas cela que je veux dire. Richelieu essaya de prendre la main de la comtesse. « Vous êtes un oiseau, dit-il, et vous un serpent. Ah, c'est bien, une autre fois on s'empressera de vous apporter de bonnes nouvelles pour être récompensé ainsi. » « Mon oncle, détrompez-vous, dit vivement d'Aiguillon, qui avait senti toute la portée de la manœuvre de Richelieu. Nul ne vous apprécie autant que madame la comtesse, et elle me le disait encore au moment où l'on vous a annoncé. » Le fait est, dit le maréchal, que j'aime fort mes amis. Aussi ai-je voulu le premier vous apporter l'assurance de votre triomphe, comtesse. Savez-vous que Tavernet, le père, voulait vendre sa fille au roi? Mais c'est fait, je pense, dit madame du Barry. Oh, comtesse, que cet homme est adroit, c'est lui qui est un serpent. Figurez-vous que moi, je m'étais laissé endormir à ces contes d'amitié, de vieilles fraternités d'armes, on me prend toujours par le cœur, moi. Et puis, comment croire que cet Aristide de province viendra exprès à Paris pour essayer de couper l'herbe sous le pied à Jean du Barry, c'est-à-dire au plus spirituel des hommes? Il a, en vérité, fallu tout mon dévouement à vos intérêts, comtesse, pour me rendre un peu de bon sens et de clairvoyance. D'honneur, j'étais aveugle. Et ce fini à ce que vous dites du moins ?» demanda Madame du Barry.
« Oh, tout à fait fini, je vous en réponds. J'ai tensé si vertement ce digne pourvoyeur qu'il doit avoir pris son parti maintenant et que nous sommes maîtres du terrain.
Mais le roi ?» « Le roi ?»
« Oui.
Ah, sur trois points, j'ai confessé sa majesté.
Le premier, le père.
Le second, la fille.
Et le troisième,
le fils.
Oh, sa majesté a daigné nommer le père un complaisant, sa fille une pimbèche, et quant au fils, sa majesté ne l'a pas nommé du tout, car elle ne s'en est même pas souvenue.
Ah, très bien, nous voilà débarrassés de la race tout entière.
Je le crois. Est-ce la peine de faire envoyer cela dans son trou?
Oh, je ne le pense pas, ils en sont aux expédients.
Et vous dites que ce fils à qui le roi avait promis un régiment...
Ah, vous avez meilleure mémoire que le roi, comtesse. Il est vrai que messire Philippe est un fort joli garçon qui vous envoyait forceillard des plus assassines même.
Dame, il n'est plus ni colonel, ni capitaine, ni frère de favorite, mais il lui reste d'avoir été distingué par vous.
En disant cela, le vieux duc essayait d'égratigner le cœur de son neveu avec les ongles de la jalousie.
Mais monsieur d'Aiguillon ne songeait pas à la jalousie pour le moment. Il cherchait à se rendre compte de la démarche du vieux maréchal et à distinguer le véritable motif de son retour. Après quelques réflexions, il espéra que le vent de la faveur avait seul poussé Richelieu à Lucienne. Il fit à Madame du Barry un signe que le vieux duc aperçut dans un trumeau tout en ajustant sa perruque et aussitôt la comtesse invita Richelieu à prendre le chocolat avec elle. L'Aiguillon prit congé avec 1000 caresses faites à son oncle et rendues par Richelieu. Ce dernier resta seul avec la comtesse devant le guéridon que venait de charger Zamor. Le vieux maréchal regardait tout ce manège de la favorite en murmurant tout bas. Il y a 20 ans, j'eusse regardé la pendule en disant « Dans une heure, il faut que je sois ministre » et je l'eusse été. Quelle sotte chose que la vie, continua-t-il, parlant toujours à lui-même. Pendant la première partie, on met le corps au service de l'esprit. Pendant la seconde, l'esprit, qui seul a survécu, devient le valet du corps. C'est absurde.
Cher maréchal, dit la comtesse, interrompant le monologue intérieur de son hôte, maintenant que nous sommes bien amis, et surtout maintenant que nous ne sommes plus que deux, dites-moi pourquoi vous vous êtes donné tant de mal à pousser cette petite mijaurée dans le lit du roi?
Ma foi, comtesse, répondit Richelieu, en effleurant sa tasse de chocolat du bout de ses lèvres, c'est ce que je me demandais moi-même, je n'en sais rien.
Monsieur de Richelieu savait à quoi s'en tenir sur Philippe, et il aurait pu sciemment annoncer son retour, car le matin, en sortant de Versailles pour se rendre à Lucienne, il avait rencontré sur la grande route se dirigeant vers Trianon, et il l'avait croisé d'assez près pour avoir remarqué sur son visage tous les symptômes de la tristesse et de l'inquiétude. Philippe, en effet, oublié à Reims, Philippe, après avoir passé par tous les degrés de la faveur, puis de l'indifférence et de l'oubli, Philippe, ennuyé d'abord de recevoir toutes les marques d'amitié de tous les officiers jaloux de son avancement, puis les attentions même de supérieurs, Philippe, au fur et à mesure que la défaveur avait terni de son souffle cette brillante fortune, Philippe s'était dégoûté de voir les amitiés changer en froideur, les attentions en rebuffade, et dans cette âme si délicate, la douleur avait pris tous les caractères du regret. Philippe regrettait donc bien sa lieutenance de Strasbourg, alors que la Dauphine était allée en France. Il regrettait ses bons amis, ses égaux, ses camarades. Il regrettait surtout l'intérieur calme et pur de la maison paternelle auprès du foyer dont l'abri était le grand prêtre. Toute peine trouvait sa consolation dans le silence et l'oubli, ce sommeil des esprits inactifs. Puis la solitude de Tavernet, qui attestait la décadence des choses aussi bien que la ruine des individus, avait quelque chose de philosophique qui parlait d'une voix puissante au cœur du jeune homme. Mais ce que Philippe regrettait surtout, c'était de n'avoir plus le bras de sa sœur, et son conseil, presque toujours si juste, conseil né de la fierté bien plutôt que de l'expérience. Car les âmes nobles ont cela de remarquable et d'éminent qu'elles planent involontairement et par leur nature même au-dessus du vulgaire, et souvent aussi par leur élévation même, échappent aux froissements, aux blessures et aux pièges, ce que l'adresse des insectes humains d'un ordre inférieur, si habitués qu'ils soient à louvoyer, à ruser, à méditer dans la fange, ne réussit pas toujours à éviter. Aussitôt que Philippe eut senti l'ennui, le découragement lui vint, et le jeune homme se trouva si malheureux dans son isolement qu'il ne voulut pas croire qu'André, cette moitié de lui-même, pût être heureuse à Versailles, lorsque lui, moitié d'André, souffrait si cruellement à Reims. Il écrivit donc au baron la lettre que l'on connaît et dans laquelle il lui annonçait son prochain retour. Cette lettre n'étonna personne, et surtout le baron. Ce qui l'étonnait, au contraire, c'était que Philippe eût eu cette patience d'attendre ainsi lorsque lui était sur les charbons ardents et depuis 15 jours suppliait Richelieu, chaque fois qu'il le voyait, de brusquer l'aventure. Philippe, n'ayant pas reçu le brevet dans le délai qu'il avait fixé lui-même, prit donc congé de ses officiers sans paraître remarquer leur dédain et leur sarcasme, dédain et sarcasme assez voilés d'ailleurs par la politesse qui était encore une vertu française à cette époque et par le respect naturel qu'inspire toujours un homme de cœur. En conséquence, à l'heure où il était convenu avec lui-même qu'il partirait, heure jusqu'à laquelle il avait attendu son brevet avec plus de crainte que de désir de le voir arriver, il monta à cheval et reprit la route de Paris. Les 3 jours de voyage qu'il avait à faire lui parurent d'une longueur mortelle, et plus il approchait, plus le silence de son père à son égard, et surtout celui de sa sœur, qui avait tant promis de lui écrire au moins 2 fois par semaine, prenait des proportions effrayantes. Philippe arrivait donc vers midi à Versailles, nous l'avons dit, comme M. de Richelieu en sortait. Philippe avait marché une partie de la nuit, n'ayant dormi que quelques heures à Melun. Il était si préoccupé qu'il ne vit pas M. de Richelieu dans sa voiture et ne reconnut même pas sa livrée. Il se dirigea tout droit vers la grille du parc, où il avait fait ses adieux à André le jour de son départ, alors que la jeune fille, sans raison aucune de s'affliger, puisque la prospérité de sa famille était à son comble, sentait pourtant monter à son cerveau les prophétiques vapeurs d'une tristesse incompréhensible. Aussi, ce jour-là, Philippe avait-il été frappé d'une crédulité superstitieuse aux douleurs d'André. Mais peu à peu, l'esprit redevenu maître de lui-même avait secoué le joug, et par un étrange hasard, c'était lui, Philippe, qui, sans raison après tout, revenait au même lieu, en proie aux mêmes alarmes, et s'en trouvait, hélas, même dans sa pensée, de consolation probable à cette insurmontable tristesse qui semblait un pressentiment n'ayant pas de cause. Au moment où son cheval, lancé sur les cailloux de la contre-allée, faisait jaillir le bruit avec les étincelles, quelqu'un, attiré sans doute par ce bruit, sortit des haies taillées en charmille. C'était Gilbert, tenant une serpe à la main. Le jardinier reconnut son ancien maître, de son côté Philippe reconnut Gilbert. Gilbert errait ainsi depuis 1 mois, ainsi qu'une âme en peine, il ne savait où faire halte. Ce jour-là, habile comme il était à suivre l'exécution de sa pensée, il était occupé à choisir des points de vue dans les allées pour apercevoir le pavillon ou la fenêtre d'André et pour avoir constamment un regard sur cette maison sans que nul regard remarquât sa préoccupation, ses frissons et ses soupirs. La serpe en main, pour se donner une contenance, il parcourait taillis et plates-bandes, tranchant ici les branches chargées de fleurs sous prétexte d'émonder, arrachant là l'écorce toute saine des jeunes tilleuls sous prétexte d'enlever la résine et la gomme. D'ailleurs toujours écoutant, toujours regardant, souhaitant et regrettant. Le jeune homme avait bien pâli depuis ce mois qui venait de s'écouler. La jeunesse ne se connaissait plus sur son visage qu'au feu étrange de ses yeux et à la blancheur mate et unie de son teint. Mais sa bouche, crispée par la dissimulation, son regard oblique, la mobilité frissonnante des muscles de son visage appartenaient déjà aux années plus sombres de l'âge mûr. Gilbert avait reconnu Philippe, nous l'avons dit, et en le reconnaissant, il avait fait un mouvement pour rentrer dans le taillis. Mais Philippe poussa son cheval vers lui en criant « Gilbert, hé, Gilbert !» Le premier mouvement de Gilbert avait été de fuir. Encore une seconde, et le vertige de la terreur et ce délire sans explication possible que les anciens, qui cherchaient une cause à tout, attribuaient au dieu Pan, allaient s'emparer de lui et l'entraîner comme un fou par les allées, par les bosquets, à travers les charmilles, dans les pièces d'eau même. Une parole pleine de douceur que prononça Philippe fut heureusement entendue et comprise du sauvage enfant. « Tu ne me reconnais donc pas, Gilbert ?» lui cria Philippe. Gilbert comprit sa folie et s'arrêta court. Puis il revint sur ses pas, mais lentement, avec défiance. « Non, monsieur le chevalier, dit le jeune homme tout tremblant, non, je ne vous reconnaissais pas. Je vous avais pris pour un des gardes, et comme je ne suis pas à mon ouvrage, j'ai craint d'être reconnu ici et noté pour une punition. » Gilbert se contenta de l'explication, mit pied à terre, passa dans son bras la bride de son cheval, et appuyant l'autre main sur l'épaule de Gilbert, qui frissonna visiblement, « Qu'as-tu donc, Gilbert ? » demanda-t-il. « Rien, monsieur, » répondit celui-ci. Philippe sourit avec tristesse. « Tu ne nous aimes donc pas, Gilbert ?» Le jeune homme tressaillit une seconde fois. « Oui, je comprends, » continua Philippe, « mon père t'a traité avec injustice et dureté, mais moi, Gilbert... »« Oh, vous !» murmura le jeune homme, « moi, je t'ai toujours aimé, soutenu. »« C'est vrai. » »« Ainsi, oublie le mal pour bien. Ma sœur aussi a toujours été bonne avec toi. »« Oh non, pour cela, non !» répondit vivement l'enfant, avec une expression que nul n'eût pu comprendre, car elle renfermait une accusation contre André, une excuse pour lui-même, car elle l'éclatait comme l'orgueil en même temps qu'elle gémissait comme un remords. « Oui, oui, » dit à son tour Philippe, « oui, je comprends, ma sœur est un peu hautaine, mais au fond, elle est bonne. » Et puis, après une pause, car toute cette conversation n'avait eu lieu que pour retarder une entrevue qu'un pressentiment lui faisait pleine de crainte, « Sais-tu où elle est en ce moment, ma bonne André ?» dit Gilbert. Ce nom frappa Gilbert douloureusement au cœur. Il répondit d'une voix étranglée, « Mais chez elle, monsieur, à ce que je présume, comment voulez-vous que moi je sache ?» « Seul, comme toujours, et s'ennuyant, pauvre sœur, » répondit Philippe. « Seul en ce moment, oui, monsieur, selon toute probabilité, car depuis la fuite de mademoiselle Nicole... »« Nicole ? Comment Nicole a fui ?»« Oui, monsieur, avec son amant. »« Avec son amant ? Du moins, à ce que je présume, » dit Gilbert, qui vit qu'il s'était trop avancé. « On disait cela au commun. »« Mais en vérité, Gilbert, » dit Philippe, de plus en plus inquiet, « je n'y comprends rien. » Il faut arracher les paroles, sois donc un peu plus aimable. Tu as de l'esprit, tu ne manques pas de distinction naturelle. Voyons, ne garde pas ces bonnes qualités par une sauvagerie affectée, par une brusquerie qui ne va pas à ta condition, qui n'irait à aucune. Mais c'est que je ne sais pas tout ce que vous me demandez, vous, monsieur, et que, si vous y réfléchissez, vous verrez que je ne puis le savoir. Je travaille toute la journée dans les jardins, et ce qu'on fait au château, dame, je l'ignore. Gilbert, Gilbert, j'aurais cru cependant que tu avais des yeux. Moi ? Oui, et que tu t'intéressais à ceux qui portent mon nom, car enfin, si mauvaise était l'hospitalité de Tavernet, tu l'as eue. « Aussi, monsieur Philippe, je m'intéresse beaucoup à vous, » dit Gilbert d'un son de voix strident et rauque, car la mansuétude de Philippe et un autre sentiment que celui-ci ne pouvait deviner avait amolli ce cœur farouche. « Oui, je vous aime, vous. Voilà pourquoi je vous dirai que mademoiselle, votre sœur, est bien malade. »« Bien malade, ma sœur ?» s'écria Philippe avec explosion. « Bien malade, ma sœur, bien malade, et tu ne me dis pas cela tout de suite ?» Et aussitôt, quittant le pas mesuré pour prendre le pas de course, « Mais qu'a-t-elle, mon Dieu » demanda-t-il. « Dame, » dit Gilbert, « on ne sait. Mais enfin !» Seulement, elle s'est évanouie 3 fois aujourd'hui en plein parterre, et même, à l'heure qu'il est, le médecin de Madame la Dauphine l'a déjà visitée, Monsieur le Baron aussi. Philippe n'en entendit pas davantage. Ses pressentiments s'étaient réalisés, et en face du danger réel, il avait retrouvé tout son courage. Il laissa son cheval aux mains de Gilbert et courut à toutes jambes vers le bâtiment des communs. Quant à Gilbert, demeuré seul, il conduisit précipitamment le cheval aux écuries et s'enfuit comme ces oiseaux sauvages ou malfaisants qui ne veulent jamais rester à portée de l'homme.